Musicopolis. Pergolèse, Naples, 1736. Le 16 mars 1736, dans le couvent des Franciscains, à Pouzzoles, à quelques kilomètres de Naples, meurt un jeune homme de 26 ans, Giovanni Battista Pergolesi. Ce jeune homme de 26 ans s'est réfugié voici quelques semaines à Pouzzoles, sans doute en raison du climat un peu moins confiné que celui de Naples. Il est malade. Depuis toujours d'une santé fragile, il est alors atteint de tuberculose. Il souffre de crachements de sang. En s'installant chez les franciscains, il sait qu'il sera soigné et entouré. Giovanni Battista Pergolesi doit bien savoir qu'il est condamné. Quelques semaines avant de mourir, il lègue ce qu'il a à sa tante Cecilia, qui jusque-là tenait sa maison et s'occupait de lui. Non pas qu'il ait grand-chose à léguer, il n'a pas eu le temps de faire fortune, il a commencé sa carrière seulement 5 ans plus tôt, en 1731. Mais pendant ces quelques années, il s'est fait connaître par toutes sortes d'œuvres religieuses ou profanes. Son nom est connu à présent à Naples et même à Rome, où on joue de lui messe et opéra. Dans les derniers mois de sa vie, Giovanni Battista Pergolesi travaille sur 2 œuvres qu'il veut absolument terminer, un Stabat Mater et un Salve Regina, 2 œuvres religieuses. Ce qui a peut-être aussi guidé son choix de se retirer dans un couvent, où il sait pouvoir trouver le recueillement nécessaire à son travail. Un petit mot sur le nom de notre compositeur. En italien, on dit Giovanni Battista Pergolesi, bien sûr. Mais déjà à son époque, et même dans son pays, on l'a souvent appelé Pergolèse. Et en France, au XVIIIe siècle, alors qu'il venait de mourir et que sa renommée s'étendait de manière fulgurante, c'est de cette manière qu'on l'a nommé, en lui rajoutant même un accent grave. Alors, par souci de simplicité, je vais l'appeler désormais Jean-Baptiste Pergolèse. Ce nom, en fait, signale l'origine de la famille, qui venait de Pergola, une petite ville dans les Marches, c'est-à-dire vers l'arrière, en plein milieu du mollet de la botte de l'Italie. Leur patronyme est alors Draghi. Et lorsqu'ils s'installent à Iesi, plus près de la mer, à quelques kilomètres d'Ancône, on les appelle Pergolesi. C'est à Iesi que Jean-Baptiste est né en 1710. Jean-Baptiste Pergolèse est né à Iesi, dans une famille plutôt aisée. Le père est administrateur de biens et responsable de la milice locale. Il confie son fils à deux professeurs de la ville, au violoniste et maître de musique municipale et au maître de chapelle de la cathédrale. Le garçon est déjà très doué pour le violon et il est probable qu'il se fait vite remarquer. Le père de Jean-Baptiste Pergolèse est certainement ouvert d'esprit pour décider que son fils peut se tourner vers une carrière de musicien. Sans doute aussi que la santé fragile du garçon ne lui permet pas d'imaginer qu'il prenne sa succession. Et puis les maîtres de musique, dans ce pays où la musique tient une place très importante, ont certainement reconnu des dons hors du commun qu'il ne fallait pas laisser perdre. le choix d'une grande ville pour y poursuivre ses études a dû se poser. Les villes musicales où on peut espérer apprendre le métier en Italie sont alors Venise, Rome et Naples. À Naples en particulier, il y a 4 conservatoires très renommés, ce qui paraît un bon choix. Les conservatoires sont ouverts en priorité aux enfants pauvres ou orphelins, ce qui n'est pas le cas de Jean-Baptiste. Pour les quelques élèves payants, ils sont très chers. Heureusement, dans les relations haut placées du père de Pergolèse, le marquis Pianetti va mettre la main au porte-monnaie et assurer à l'adolescent une bourse qui lui permettra de faire près de 8 années d'études. Et puis il y a aussi l'attrait de Naples, qui est devenue depuis quelques années la ville la plus renommée de la péninsule sur le plan musical. Rien n'est plus beau que la situation de Naples dans un golfe. Elle est amphithéâtre sur la mer, mais un amphithéâtre profond. Monsieur le vice-roi a un salon où il voit la mer de tous côtés, voit arriver les vaisseaux, voit le mont Vésuve d'un côté et les deux côtés de la mer, ce qui fait un spectacle charmant. C'est Montesquieu qui parle et qui décrit Naples dans le récit de ses voyages effectués entre 1728 et 1731. Les voyageurs ne manquent pas à cette époque, ils sont nombreux à descendre jusqu'à Naples, qui n'est jamais qu'à 2 ou 3 jours de Rome. C'est une étape dans le Grand Tour que font de nombreux Européens du Nord. Pour la France, nous avons de nombreux récits dans les premières décennies du XVIIIe siècle. Montesquieu donc, et aussi le comte de Caylus en 1715, Étienne de Silhouette en 1729 et le président de Brosse en 1739. Tout à fait donc dans l'époque qu'a connue Pergolèse, qui est arrivé à Naples vers 1722 et resté jusqu'à sa mort en 1736. Pour Étienne de Silhouette, en 1729, la ville de Naples est la plus grande et une des plus belles d'Italie. Soit que l'on considère la situation et la beauté des édifices, soit que l'on ait égard au nombre des habitants et à leur richesse. Elle est située sur le bord de la mer qui forme un golfe. La diversité de cette vue est admirable. La ville de Naples n'est pas à proprement parler une ville fortifiée, mais elle est défendue par plusieurs châteaux. Naples est bâtie uniformément. Le dessus des maisons est en plateforme. Les rues sont larges, droites, bien pavées avec de très grandes pierres. Il y a plusieurs belles fontaines, mais la plupart sont mal entretenues. Le nombre des habitants monte, sans exagération, à 5 ou 600 000 âmes. C'est la ville la plus peuplée d'Italie. C'est celle où il y a le plus de moines et où ils sont le plus riches. Les richesses des couvents passent l'imagination. Les églises sont revêtues de marbre précieux. En un mot, les moines sont, sans nulle sorte de comparaison, plus riches à Naples qu'à Rome. Si l'on considère les récits des voyageurs arrivant à Naples au début du XVIIIe siècle, qui compte un peu moins de 300 000 habitants, quoi qu'en dise Monsieur de Silhouette, il apparaît que c'est la beauté du paysage qui frappe d'abord. En revanche, pour ceux qui cherchent les beaux ouvrages de l'art, selon Montesquieu, ils ne doivent pas quitter Rome. À Naples, écrit-il, il me paraît qu'il est plus facile de se gâter le goût que de se le former. Quant au président de Brosse, il est tout aussi sévère. Il n'y a pas un bon morceau d'architecture. Des fontaines mesquines, des rues droites à la vérité, mais étroites et sales. Des églises dont on vante les beautés, et qui ne sont pourtant point vantables, ornées sans goût et riches sans agrément.
Jesus.
Ce qui frappe les voyageurs qui arrivent à Naples, c'est, je cite le président de Brosse, « le mouvement infernal qui y règne ». À mon sens, écrit-il, Naples est la seule ville d'Italie qui sente véritablement sa capitale. Le mouvement, l'affluence du peuple, l'abondance et le fracas perpétuel des équipages, une cour dans les formes et assez brillante, le train et l'air magnifique qu'ont les grands seigneurs, tout contribue à lui donner cet extérieur vivant et animé qu'ont Paris et Londres, et qu'on ne trouve point du tout à Rome. La populace y est tumultueuse, la bourgeoisie vaine, la haute noblesse fastueuse et la petite avide de grands titres. La femme d'un commerçant ne sort jamais de chez elle dans son équipage sans un autre carrosse de suite, dans lequel vous vous doutez bien qu'il n'y a personne. Mais cela fait toujours du bruit et va comme la tempête. On fait grand usage ici de petites voitures en coquille, à roues fort basses et attelées d'un seul cheval qui les emporte à toutes jambes. Que venant de sa petite ville de Jesi, Pergolèse ait eu une grosse surprise en découvrant la capitale qu'est Naples. Et même s'il a pu entendre pas mal de musique avant d'arriver, même s'il a certainement assisté à des opéras donnés par des troupes ambulantes, s'il a pu suivre des représentations musicales sacrées données tous les dimanches d'hiver à l'église, il doit être submergé par toutes les possibilités qui s'offrent aux visiteurs en cette matière. Bien sûr, il est tout jeune, il doit avoir 12 ou 13 ans. Et il ne peut pas profiter de toutes les opportunités musicales qui se présentent aux adultes. Mais tout de même, le foisonnement artistique se manifeste partout dans la ville et dans tous les styles de musique. En particulier, le répertoire religieux et l'opéra. Voilà une émulation qu'il va mettre à profit dans sa très courte carrière.
Oh,
air d'Aristea au deuxième acte de l'Olympiade de Pergolèse, Simone Kermes soprano avec l'ensemble Les Musiques Nove, dirigé par Claudio Ocelle. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pascal Bénard pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.